Il y a un procès important qui doit commencer aujourd'hui. C'est celui du jeune homme qui est accusé d'avoir, par négligence criminelle, causé la mort de Marie-Pierre Gagné, ainsi que des lésions corporelles à sa fille, qui est née après la collision. Rappelez-vous, sur le boulevard Laurier, c'est un conducteur qui avait fauché une piétonne enceinte qui traversait. Et c'est un procès qui commence avec des contestations et des demandes d'abandon des poursuites. On a au téléphone Alexis Sanson, notre journaliste, qui est allé faire un tour au palais de justice ce matin. Est-ce que le procès est commencé formellement, Alexis?
Oui, le procès qui a commencé depuis là, 9h30 ce matin, là, les accusations ont été formellement déposés à l'endroit de Jonathan Falardeau-Laroche, qui a plaidé non coupable aux trois chefs d'accusation. Là. On parle de négligence criminelle causant la mort et deux chefs de négligence criminelle causant des lésions corporelles. Donc, pour les lésions corporelles, on parle de l'enfant de Marie-Pierre Gagné, la femme enceinte qui est décédée, et également là, d'une autre dame qui conduisait un autre véhicule qui a fini par être impliquée là, dans cet accident-là.
Et ça commençait, il me semble que la défense avait déjà annoncé qu'elle contestait les accusations en disant « ça va être la parole de l'un contre la parole de l'autre » parce qu'il n'y a pas de trace de ce que le médecin avait dit à Jonathan Falardeau-Gagné.
Oui, mais c'est ça qui est particulier, c'est que l'essentiel de la preuve et l'essentiel de la preuve de la couronne en portant des accusations à l'endroit de Jonathan Falardeau-Laroche, c'est que le médecin de Jonathan Falardeau-Laroche, son neurologue pédiatre, lui aurait dit tout juste à la sortie du rendez-vous avant qu'il happe mortellement Marie-Pierre Gagné, qui lui soutient que il lui a dit à Jonathan Falardeau-Laroche qu'il ne devait pas conduire et que c'était dangereux, qu'il n'était pas en état de conduire à ce moment-là, en raison de ses problèmes d'épilepsie. Or, Jonathan Falardeau-Laroche, lui, nie tout ça. Et le problème là-dedans, c'est qu'il ne reste aucune note de tout ça. Il ne reste pas de note manuscrite au docteur Michel Sylvain, qui est celui qui est le neurologue personnel de Jonathan Falardeau-Laroche, qui le suit d'ailleurs depuis 2005. Il n'a gardé aucune note manuscrite de cet entretien-là et encore moins de cette consigne-là qu'il aurait donnée à Jonathan Falardeau-Laroche. L'autre problème, c'est qu'au moins, on dit, bon, ben il y a des notes verbales qui sont conservées, un enregistrement via le système d'enregistrement du CHUL, du Centre hospitalier de l'Université de Laval, sauf que ces notes-là sont détruites après 7 jours. Donc, l'essentiel de la preuve, de la bouche même de l'avocat de la Couronne, repose sur le témoignage de ce médecin-là. Or, s'il n'y a plus de preuves de quoi que ce soit, ça se retrouve à être les mots et la version de Michel Sylvain, d'ailleurs, qui a commencé son témoignage il y a à peu près 1 heure, tout juste avant la pause du midi. Et là, bon, la Couronne, la défense, elle, qui a déjà déposé une requête en arrêt des procédures à la mi-mai, et la requête, elle, va être débattue demain. Ah.
Donc, on a commencé à entendre le médecin, même si la défense a dit, regarde, on devrait abandonner les procédures.
Oui, exact. Et du côté de la Couronne, on explique ça par le fait que ça a été déposé un peu à la dernière minute. Ça a été un peu tardif comme dépôt. Et là, on dit, ben sinon, il aurait fallu faire venir le neurologue avant pour débattre de la requête. Et là, ensuite, s'il y avait eu procès, on aurait dû faire revenir le neurologue une deuxième fois. Le problème, c'est que si on le voit dans la situation inverse, peut-être est-ce que les procédures se seraient arrêtées immédiatement après la requête. Parce que il n'est pas impossible que demain, si jamais on débat de cette requête-là et que le juge finit par accepter la requête qui a été déposée par la défense, comme quoi ça prive Jonathan Falardeau-Laroche d'une défense pleine et entière, parce qu'il n'y a pas les éléments de preuve concrets sur lesquels il doit débattre, ben si le juge accepte cette requête-là, il ne reste plus grand-chose à la Couronne elle-même, parce que on parle de négligence criminelle. Or, Jonathan Falardeau-Laroche, à ce moment-là, avait toujours un permis de conduire. Donc, la négligence criminelle, essentiellement, elle est basée sur le fait que son neurologue pédiatre, lui, aurait fortement suggéré et aurait supposément, selon lui, suggéré à Jonathan Falardeau-Laroche de ne plus conduire parce qu'il n'était plus en état de conduire en raison de ses crises d'épilepsie.
À moins que la Couronne ait d'autres preuves à donner que le jeune homme était au courant du danger qu'il pouvait représenter. Mais ça, c'est il y a une quinzaine de témoins qui sont annoncés?
Ben, en fait, là, oui, sauf que ce matin, on a décidé de couper ce court et plutôt que de faire entendre tous ces témoins-là, on a déposé tous les témoignages par écrit ce matin à la cour. Donc, le juge a reçu tous les témoignages, les gens qui ont été témoins de cette scène-là, justement, le 10 août 2016. On a tout soumis ça par écrit au juge parce que autrement la couronne, ce qu'elle veut faire, c'est... Bon, ce matin, on a commencé par expliquer les circonstances dans lesquelles était survenu cet accident-là. Ce qu'on voulait démontrer, en fait, c'est que il n'y a rien d'autre qui explique cet accident-là que la crise d'épilepsie de Jonathan Falardeau-Laroche. Et le deuxième bloc de la poursuite, c'est celui qui a cours actuellement, c'est celui où on fait témoigner notamment le neurologue Michel Sylvain. Et par la
dans
suite...
Dans le fond, tout ce qui est autour des circonstances même de l'accident, on a admis les témoignages qui avaient été rendus comme des faits. Tu sais, on n'a pas l'intention, on n'a pas besoin de refaire la démonstration, les deux parties ont accepté.
Ouais, ben exact, exactement. Et la seule chose qui va rester, qui va être débattue, ben et que la couronne va vouloir venir prôner, ça va se trouver aussi probablement demain ou en tout le moins dans les prochains jours, parce qu'on se garde deux semaines pour ce procès-là. C'est le fait que deux fois dans le passé, les policiers ont intervenu auprès de Jonathan Falardeau-Laroche et lui avaient fait suivre certains tests pour être certain qu'il était en état de conduire. Ah. Sauf que, comme je te le mentionnais, il y a rien qui interdisait Jonathan Falardeau de conduire lorsque l'accident est survenu. Donc, jamais ça a été jugé suffisamment problématique pour qu'on enlève le permis de conduire de Jonathan Falardeau-Laroche.
Ouais, il va falloir que le juge entende tout ça, réfléchisse à tout ça. Et dans le fond, ça dépend de la capacité de la couronne de démontrer que, indépendamment du droit qu'il avait de conduire, il aurait dû savoir qu'il ne devait pas conduire. C'est pas parce que tu as un droit que tu es obligé de l'utiliser, hein?
Ben, c'est exactement ce que la couronne tente de faire actuellement. Et c'est pour ça qu'on dit, ben, tu sais, en démontrant justement que, avec tout ce qui tourne autour, ben, les derniers accidents démontrent qu'il y a eu de la négligence. Les derniers, ce qu'il y a eu comme intervention, démontrent qu'il y a eu de la négligence de la part de Jonathan Falardeau-Laroche. C'est ce qu'a tenté à tout le moins d'entrer déjà dans le début du procès, la couronne dès ce matin.
Merci beaucoup, Alexis.